Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du mardi 7 avril 2020. Eric Manilakis à la présentation. Voici d'abord les titres. En Guinée, promulgation hier de la nouvelle constitution après le référendum fin mars. 6 personnes tuées dans une attaque des ADF à Beni en RDC. Le Rwanda commémore dans la sobriété son 26e anniversaire du génocide des Tutsis. En Afrique, plus de 10 000 cas confirmés de Covid-19 et 487 décès. Aux États-Unis, les habitants du Wisconsin votent ce mardi en pleine pandémie du coronavirus pour des scrutins locaux et la primaire démocrate. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Le président guinéen Alpha Condé a promulgué la nouvelle constitution qu'il avait soumise à référendum fin mars, a indiqué la télévision nationale le lundi. L'opposition dénonçait un stratagème de sa part pour se maintenir au pouvoir. M. Condé a aussi approuvé un plan de riposte économique au Covid-19 doté de plus de 3 000 milliards de francs guinéens, près de 292 millions d'euros. L'ancien président et principal opposant béninois Boni Yayi a annoncé dimanche quitter son parti politique, le FCBE, à quelques semaines des élections locales, accusant le chef de l'État Patrice Talon de préparer un parti unique à sa solde. Dans une note aux militants du parti Force Coris pour un Bénin émergent, M. Boni Yayi dénonce la poursuite d'un processus d'exclusion par des réformes personnelles au rang desquelles figure la charte des partis politiques. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu mardi sa première session publique ultra courte depuis le 12 mars pour évoquer la situation au Mali. L'accès via le site internet de l'ONU à cette réunion des 15 membres du Conseil a été rendu possible par la République dominicaine. La retransmission de la réunion n'a duré que 10 minutes, le temps pour l'émissaire de l'ONU au Mali, Mohamed Saleh Anadif, de prononcer son allocution depuis Bamako. L'Afrique a dépassé la barre des 10 000 cas confirmés de Covid-19 et 487 décès. Le continent reste l'un des moins touchés, mais les autorités dans différents pays continuent de renforcer les mesures de lutte contre la maladie. Abdulrahman Dia.
Ce mardi, le Bénin, qui compte 26 cas dont un décès, a décidé de rendre obligatoire le port du masque de protection dans 12 communes, dont la capitale économique Cotonou. L'obligation est faite de porter le masque en tout lieu, dans l'administration publique comme privée, dans les réunions, les rencontres dans les marchés, les magasins, les boutiques, et ce, quel que soit le nombre de personnes présentes, a annoncé le gouvernement, qui recommande d'acheter les masques en pharmacie où ils sont subventionnés et vendus à 200 francs CFA l'unité. La Côte d'Ivoire a aussi recommandé l'usage du masque sans l'imposer. Le Maroc vient de rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics. En République démocratique du Congo, le quartier des affaires de la Gombe à Kinshasa a vécu sa première journée de confinement hier, une mesure qui va durer jusqu'au 20 avril et dont certains remettent en cause l'efficacité puisque le reste de la capitale n'est pas concerné par la mesure. De son côté, le Malawi a rapporté ce mardi son premier décès lié au coronavirus. Le pays est l'un des moins touchés en Afrique avec 8 cas confirmés.
En République démocratique du Congo, 6 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée au groupe armé ADF dans la région de Beni, dans l'est du pays. Jacques Aristide.
L'attaque a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dans la localité de Halongupa, à environ 30 kilomètres de Beni, dans la province du Nord Kivu, une région en proie à la violence depuis 25 ans. 5 hommes et un enfant ont été tués. Dans le Nord Kivu, 3 villes majeures, Goma, Beni et Butembo, ont été isolées du reste de la province par les autorités afin de stopper la propagation du Covid-19. Au moins un cas du nouveau coronavirus a été enregistré à Beni sur les 180 cas enregistrés en RDC, dont 18 décès. La région se prépare également à sortir de l'épidémie d'Ebola, dont la fin doit être techniquement proclamée le 12 avril. Depuis quelques semaines, les attaques et tueries des civils attribués aux ADF ont diminué. Ce groupe armé est accusé d'avoir massacré plus de 1 000 civils dans la région de Beni depuis octobre 2014. Depuis novembre, les ADF ont intensifié leur tuerie contre les civils en représailles aux opérations militaires lancées à la fin d'octobre dernier, faisant près de 400 morts. D'après les experts, les ADF, ou forces démocratiques alliées, sont à l'origine des rebelles ougandais musulmans présents dans l'Est congolais depuis 1995.
La France a salué aujourd'hui la mémoire des victimes du génocide au Rwanda à l'occasion de la commémoration de son 26e anniversaire. Mais compte tenu du confinement, aucun rassemblement public n'a lieu à Paris et dans les différentes villes de France. L'écrivain Gaël Faye lance un message à l'occasion de cet anniversaire.
Depuis 26 ans, chaque mois d'avril, nous nous souvenons que durant 100 jours au Rwanda, d'avril à juillet 1994, plus d'un million d'êtres humains furent exterminés parce qu'ils étaient nés Tutsis. Depuis 26 ans, chaque mois d'avril, nous avons pris pour habitude de nous réunir dans des veillées du deuil, des marches de la mémoire, pour se consoler, pour s'écouter, pour être ensemble. Cette année, le mois d'avril nous replonge dans la même douleur. Et malgré l'impossibilité pour beaucoup d'entre nous d'être ensemble, d'être en famille, d'être réunis, essayons néanmoins d'être là les uns pour les autres, en pensée, en prière, en attention. Et je pense particulièrement aux survivants qui sont isolés et affectés par ce confinement. Cette vidéo pour vous souhaiter à toutes et à tous beaucoup de courage durant cette période du deuil et du souvenir.
Gaël Faye, écrivain franco-rwandais qui a grandi au Burundi. Le Soudan a trouvé un accord avec les familles des victimes de l'attentat en 2000 contre le destroyer américain USS Cole en vue de leur indemnisation, a annoncé lundi le ministère soudanais de la Justice. Khartoum avait accepté en février de verser des indemnités aux familles des 17 marins américains qui ont été tués lors d'une attaque suicide au large du Yémen. La justice américaine avait jugé le Soudan responsable de l'attaque en affirmant que ses auteurs ont été entraînés dans ce pays, ce que Khartoum a longtemps nié.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Saisi hier par les Républicains, la Cour suprême du Wisconsin a bloqué un décret du gouverneur démocrate Tony Evers qui exigeait le report des élections prévues ce mardi à cause de craintes de contagion du coronavirus. Les États-Unis comptent le plus grand nombre de cas, environ 368 400, et totalisent 10 993 décès. Les précisions de Nathalie Barge.
Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a prolongé jusqu'au 29 avril les mesures de confinement. La cathédrale Saint-Jean à Manhattan est transformée en hôpital de campagne. Les électeurs du Wisconsin votent aujourd'hui pour les élections locales et la primaire démocrate. La Cour suprême de l'État a bloqué le report décrété par le gouverneur. Le président du Parti démocrate du Wisconsin, Ben Wickler, a appelé la population à voter par correspondance. Une centaine de municipalités disent ne pas avoir assez d'employés pour ouvrir ne serait-ce qu'un seul bureau de vote. La population de cet État est appelée au confinement depuis fin mars pour éviter la propagation du coronavirus. 15 États et le territoire de Porto Rico ont annoncé le report des scrutins et le vote se fera seulement par correspondance pour l'Alaska le 10 avril et le Wyoming le 17 de ce mois.
La pandémie a fait plus de 75 000 morts dans le monde, dont près des trois quarts en Europe, où la décrue du nombre de décès n'est pas confirmée. Au Royaume-Uni, la santé de Boris Johnson, malade du Covid-19, s'est brutalement dégradé. Claire Morigibourg.
Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a été admis dimanche dans une unité de soins intensifs à Londres. Âgé de 55 ans, il a reçu un soutien en oxygène et reste sous étroite surveillance. Il a été remplacé temporairement par Dominic Raab, le ministre des Affaires étrangères. Avec près de 5400 décès, le Royaume-Uni est l'un des pays d'Europe les plus touchés. L'Espagne a vu le nombre de décès quotidiens repartir à la hausse après 4 jours de baisse. Grèce. Le bilan, plus de 13 800 morts. L'Italie reste le pays le plus endeuillé du monde avec plus de 16 500 morts. L'Arabie Saoudite prévoit jusqu'à 200 000 cas, a déclaré mardi Taoufik Al-Rabia, le ministre saoudien de la Santé. Israël a imposé un bouclage entre les villes de mardi à vendredi pendant les fêtes de la Pâque juive, demain où les familles ont l'habitude de se réunir. Partout dans le monde, les chrétiens s'apprêtent à célébrer Pâques de manière inédite. Et pour la première fois hier, la Chine n'a annoncé aucun décès dû au coronavirus et le bouclage de la ville de Wuhan a été levé.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Écho avec Eki Abadou.
La pandémie de coronavirus pourrait avoir des conséquences catastrophiques en Afrique, comme par exemple la perte de 20 millions d'emplois ou la hausse de l'endettement, prévient une étude de l'Union africaine. Elle estime que les pays dont l'économie repose sur le tourisme ou la production pétrolière sont les plus à risque. Le continent africain pourrait voir ses importations et exportations baisser de 35%, soit environ 270 milliards de dollars. Le Nigeria espère emprunter 6,9 milliards de dollars au Fonds monétaire international et la Banque mondiale pour compenser les conséquences désastreuses de la pandémie sur son économie, le premier producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, qui est aussi le plus peuplé du continent, souffre particulièrement de la chute des prix du baril à moins de 20 dollars ces derniers jours. Aussi, la Côte d'Ivoire compte sur l'assistance des États-Unis pour une aide de 2,7 milliards de francs CFA pour répondre au Covid-19 dans le pays. La pandémie du Covid-19 met à mal les pays de la CEMA qui devraient perdre entre 992 et 2653 milliards de francs CFA de recettes pétrolières en 2020. La Guinée équatoriale, le Congo, le Gabon et le Tchad seront plus touchés par cette baisse des recettes, le pétrole contribuant dans certains cas jusqu'à 80% aux recettes globales de ces pays.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Basketball pour commencer. Le patron de la NBA, Adam Silver, soutient qu'il ne prendrait pas de décision sur le maintien ou l'annulation de la saison avant le mois de mai. La NBA a suspendu jusqu'à nouvel ordre sa saison au soir du 11 mars après que le pivot français de Utah Jazz, Rudy Gobert, a été le premier joueur de la Ligue déclaré positif au Covid-19. Depuis, une quinzaine d'autres joueurs de la Ligue ont aussi contracté le virus. La saison régulière devait se terminer le 15 avril et les playoffs débuter le 18 pour aboutir au final de juin. Monsieur Sylvain révèle également qu'aucune décision n'a été prise sur la reprise de la saison régulière ou l'idée de redémarrer directement au stade des playoffs. Football, des dirigeants de la FIFA ont reçu des pots de vin pour voter en faveur de l'attribution à la Russie et au Qatar des Coupes du Monde 2018 et 2022. C'est ce que révèle un document publié par le procureur fédéral américain de Brooklyn. Selon l'acte d'accusation, Jack Warner, l'ancien président de la Fédération de football d'Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes, a reçu 5 millions de dollars pour voter en faveur de la Russie. Le document cite également Rafael Salguero, ancien président de la Fédération guatémaltèque de football, qui se serait vu promettre 1 million de dollars en échange de son soutien à la candidature russe. Les autorités russes ont démenti avoir versé des pots de vin à des dirigeants de la FIFA pour obtenir le droit d'organiser le Mondial 2018. Pour l'attribution de la Coupe du Monde 2022, le document met en cause, entre autres, l'ancien président de la Fédération brésilienne Ricardo Teixeira et l'ancien président de la Confédération sud-américaine de football, Nicolas Léoz, décédé en août 2019. En Europe, Thomas Müller, dont le contrat expirait en juin 2021, a prolongé au Bayern Munich jusqu'en 2023. L'attaquant allemand de 30 ans, arrivé au Bayern à l'âge de 10 ans, évolue au sein de l'effectif professionnel du club depuis 2008 et compte plus de 500 matchs sous le maillot bavarois. Müller a jusqu'ici tout remporté avec le Bayern, 8 fois le championnat, 5 fois la Coupe nationale, la Ligue des champions, puis la Coupe du monde des clubs en 2013 et la Coupe du monde avec l'Allemagne lors du Mondial Brésil 2014. En Italie, les clubs du championnat interrompu depuis le 9 mars ont trouvé un accord sur la réduction des salaires de leurs joueurs face à la crise provoquée par le coronavirus. Des accords individuels doivent aussi être signés entre les clubs et les joueurs qui renonce à une somme comprise entre 2 mois et 4 mois de salaire. Cette décision, annoncée par la Ligue, a été prise à l'unanimité des clubs de Serie A, à l'exception de la Juventus qui a précédemment trouvé un accord avec ses propres joueurs. D'après le club turinois, les baisses de salaire acceptées par ses joueurs et son entraîneur auraient un impact positif de 90 millions d'euros sur l'exercice financier 2019-2020.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakiza, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. En Afrique subsaharienne, les restrictions destinées à protéger les systèmes de santé fragiles d'une épidémie de masse ont un effet secondaire inquiétant. Les organisations humanitaires luttent pour maintenir les approvisionnements dans une région où des millions de personnes dépendent de l'aide extérieure alors que de nombreuses frontières sont fermées. Les précisions de Nathalie Barche.
L'organisation caritative médicale Alima a prévu d'ouvrir une salle d'opération d'urgence cette semaine au Burkina Faso. Mais le projet est au point mort car le pays a fermé ses frontières avant qu'un chirurgien et un anesthésiste ne puissent se rendre dans le pays. En Centrafrique, les responsables de la santé affirment qu'une campagne de vaccination contre la rougeole pourrait être annulée en raison d'un retard dans l'approvisionnement en flacons en provenance de France. La première préoccupation de Kanaganathan Rangaya d'Action contre la faim est de savoir comment contrôler la propagation du virus dans les camps où les déplacés et réfugiés vivent à proximité les uns des autres.
Notre défi majeur maintenant dans toutes les zones, c'est que toutes les routes sont bloquées. L'accès est vraiment limité et nous essayons de nous préparer à aider pour éviter que le coronavirus ne se propage spécifiquement chez les personnes déplacées vivant dans les campagnes ou chez les populations vulnérables vivant dans les zones rurales.
Médecins sans frontières affirment avoir transporté du personnel dans certains endroits avant la fermeture des frontières et être doté de fournitures pour maintenir les installations en marche au cours des semaines à venir, car les gouvernements ont gardé les frontières ouvertes pour l'aide humanitaire. Mais les travailleurs humanitaires qui voyagent habituellement sur les vols commerciaux ne peuvent plus atteindre les lignes de front, laissant ceux qui sont déjà sur place se débrouiller et risquant ainsi l'épuisement professionnel dans des conditions de haute pression. Le Programme alimentaire mondial prévoit que l'insécurité alimentaire au Burkina Faso triplera pour dépasser les 2 millions de personnes en juin. Les chiffres devraient également augmenter de manière significative au Mali et au Niger. La malnutrition va monter en flèche dans la région du Sahel, selon Eric Brancaert, conseiller principal du PAM.
Pour la période de soudure, les mois à venir de juin à septembre, l'analyse a conclu que nous allons passer de 10,8 millions de personnes déclarées en situation d'insécurité alimentaire en 2019 à 19,1 millions de personnes en 2020.
D'autre part, les centres de détention en Afrique sont surpeuplés et les prisonniers souffrent souvent de malnutrition. Le CICR fournit par exemple de la nourriture aux prisonniers dans au moins 20 des 42 prisons de Madagascar, indique la porte-parole de l'organisation Aliona Sinenko.
Nous sommes très inquiets de ce qui pourrait arriver si la pandémie atteint certaines des communautés les plus vulnérables que nous aidons, par exemple les personnes qui vivent dans les camps de déplacés ou les détenus dans les prisons.
Surmonter la situation sera une tâche extrêmement coûteuse. Les Nations Unies ont lancé un appel de 2 milliards de dollars en faveur d'une réponse humanitaire mondiale axée sur les pays les plus pauvres. Et Oxfam a déclaré que le doublement des dépenses de 85 de ces pays, principalement en Afrique, coûterait près de 160 milliards de dollars.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Nigeria, alors que le nombre de cas confirmés a atteint 238, L'Association nationale des médecins a rejeté l'offre d'assistance de médecins chinois. Plus de 2,6 millions de Nigériens pauvres ont commencé à recevoir des transferts d'argent venant du gouvernement fédéral en cette période de confinement. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
La décision d'inviter une équipe d'experts médicaux chinois de 18 membres a été critiquée depuis qu'elle a été annoncée vendredi par les autorités fédérales. Au sein de la population, des voix s'élèvent pour critiquer l'initiative du gouvernement, estimant que l'ensemble du personnel de santé au Nigeria est mobilisé et donne déjà le meilleur de lui-même dans la lutte contre le coronavirus. Roland Aigbowo est le président de la branche d'Abuja.
Are those people going to quarantine themselves? That's the first question.
Ces gens vont-ils se mettre en quarantaine? C'est la première question. Ensuite, il est injuste de quitter ailleurs et venir travailler comme professionnel dans un autre pays. Ont-ils suivi le processus nécessaire de régulation professionnelle dans le nouveau pays hôte? Ou alors, qui sont-ils? Quelles sont leurs qualifications? Le gouvernement fédéral affirme que l'équipe vient pour partager son expérience dans la lutte contre le coronavirus. Boss Mustapha est le secrétaire général de la présidence et président de la Commission nationale sur le COVID-19. Personne d'autre ne peut te donner de bonnes informations sur la gestion du COVID-19 que les Chinois. Donc je pense que nous ne devons pas nous engager dans un débat inutile. Ils ne sont pas accrédités par l'Association nationale des médecins du Nigeria ou par le Conseil national des médecins. Ils ne peuvent pas pratiquer ici. Ils ne vont pas gérer nos patients. Ils vont offrir leurs expériences. Dimanche dernier, le président Muhammadu Buhari a annoncé une série de mesures, dont une assistance à certaines familles très pauvres pour aider à réduire l'effet du confinement. Il s'agit d'un montant de 5 000 naira, soit environ 12 euros, qui doit être remis à chaque personne sur une liste établie par le gouvernement. La distribution de l'argent a commencé, mais beaucoup de Nigériens pensent que cela n'arrivera pas aux populations qui sont dans le besoin. Ils accusent les responsables de corruption. Réaction. Oui, j'ai appris que le gouvernement a partagé de l'argent hier, mais personne ne m'a donné de l'argent. En plus, je ne compte pas sur cet argent. Je sais qu'il y a des gens pauvres qui en ont besoin, mais cet argent n'arrivera pas à destination. Connaissant bien notre gouvernement, ils ne vont jamais rendre compte. Et la vérité est que si on partage des milliards de naira qui ont été déjà débloqués pour un bon nombre de Nigériens, je crois que le confinement pourrait bien se passer. En plus de la capitale fédérale Abuja, qui compte plus de 2 millions de foyers recensés, 11 millions de ménages ont été identifiés dans les 36 États du Nigeria, selon le ministère des Affaires humanitaires. Mais comment le gouvernement identifie-t-il ceux à qui venir en aide? C'est la question sur toutes les lèvres ici, puisque le pays manque de données exactes de sa population. Pendant ce temps, le confinement est entré dans sa deuxième et peut-être dernière semaine. Pour le moment, les autorités se concentrent sur la limitation des cas de nouveaux coronavirus. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Gabon, face à la propagation du COVID-19, le président Ali Bongo a instruit son gouvernement de décaisser près de 400 000 euros pour soutenir les citoyens économiquement faibles, les salariés et les entreprises de services. Les importations alimentaires provoquent des inquiétudes sur les marchés. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Le marché Mumbui, en plein approvisionnement comme chaque jour et depuis l'apparition du COVID-19 au Gabon. Ces importations proviennent du Cameroun voisin, mais les livraisons ont à peine quelques preneurs dans ce secteur dit conteneur.
Des fois, les camions arrivent ici jusqu'à 3-4, mais il n'y a pas les clients. Or, avant, les choses viennent, mais on a assez clients. À cause de les coronavirus-là, les clients maintenant sont disparus.
Lui, c'est Mike, le chef de secteur conteneur au plus grand marché de Libreville. Il veut nous persuader de la dynamique du trafic des denrées alimentaires en cette période de crise sanitaire. Or, les importatrices, comme Jacqueline, ne cachent pas leur calvaire du départ à la frontière jusqu'ici.
Pour prendre d'abord la marchandise au Cameroun, c'est pas facile. Même là-bas, les gens ne sortent pas. Et peu de marchandises que nous trouvons même au Cameroun se gaspillent avant l'arrivée. Des fois, nous faisons maintenant 2 jours en route avant d'arriver à Libreville.
L'heure n'est pas encore à la pénurie. Tout au contraire, c'est l'abondance sur le marché. Sauf que par les temps qui courent, Marie-Julie ne voit plus grand monde devant son étal de fruits.
Comme là, j'ai les oignons coûtent cher. Le sac d'oignons, c'est à 90 000. On fait les filets comme ça. Tu fais le filet même à 18 000. Les gens n'arrivent pas à prendre parce que c'est cher.
Désormais engagé dans un défi d'autosuffisance alimentaire, le gouvernement gabonais promeut le retour à la terre. Mais sa politique agricole pêche encore par l'absence de mesures incitatives à hauteur de souhait. Le combat de la limitation des importations, c'est aussi celui de l'ONG IDRC Africa. Son président est cofondateur de ce marché des produits issus du terroir gabonais.
Pour un pays aussi riche, aussi béni que le Gabon, c'est pas normal que la nourriture vienne d'ailleurs. Mais s'il y a confinement général, ça veut dire que ce marché-là va fermer. Mais elles vivent de cette activité-là. Elles nourrissent les populations de cette activité. C'est-à-dire que le mensonge qui est entretenu par les dirigeants depuis près de 40 ans nous rattrape aujourd'hui dans le secteur alimentaire.
Pour sauver le pays des marasmes économiques après le Covid-19, les sources officielles indiquent que le gouvernement vient d'engager des discussions avec ses partenaires financiers pour booster certains secteurs importants, dont celui de l'agriculture. Ismaël Obianze pour VOA Afrique, Libreville.
Au Rwanda, les commémorations du 26e anniversaire du génocide ont eu lieu dans la sobriété à cause de la pandémie de coronavirus. Après le génocide, les Gacaca, ces tribunaux populaires, ont permis de juger des centaines de milliers de personnes qui avaient participé au massacre. Ces tribunaux ont été perçus comme un moyen pour rechercher la vérité, rendre justice aux victimes et contribuer ainsi à la réconciliation nationale. Pendant son séjour au Rwanda, il y a exactement un an, Idriss Fall s'est entretenu avec Françoise Gahamani, ancienne présidente du tribunal Gacaca à Kigali.
Je m'appelle Françoise Gahamani. J'étais la présidente du tribunal Gacaca de secteur Kakiru dans Kigali. Les Gacaca, on a d'abord fait les élections des femmes et hommes qu'on appelait les hommes et les femmes intègres pour être juges de Gacaca. Au niveau de la cellule, on était à 8 et 2 suppléants. On a commencé par mettre ensemble les informations, c'est-à-dire d'abord les noms des personnes qui ont été tuées, peut-être même les noms de ceux qui les ont tués, les personnes qui ont été tuées dans la cellule, qui sont venues d'ailleurs mais ont été tuées dans la cellule, les hommes de la cellule qui ont été tués en dehors de la cellule. Toutes ces informations devaient être compilées, mais mises ensemble. Dans tout le pays, je crois que c'était dans les 2 millions de procès.
Quel a été le procès le plus difficile dont vous vous rappelez encore?
Pour moi, le procès le plus difficile, c'était le procès de viol. Parce que la pauvre dame qui était violée, c'était sa parole contre 10 autres personnes qui étaient là. Il y avait le présumé violeur qui jurait que c'était pas vrai. Et les voisins qui devait l'avoir vu revenir, qui jurait ne pas l'avoir vu. Ça, c'était dur. Et comme c'était à huis clos, ce n'était pas facile.
Et ça s'est terminé comment? Le violeur présumé est reparti libre ou bien ça s'est...
Non, il n'était pas libre. On l'a inculpé parce qu'au fur et à mesure qu'on avait des preuves, on l'a inculpé.
Par exemple, il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués. Ceux qui ont reconnu avoir tué leur voisin, comment ça s'est passé?
On avait des prévenus qui étaient donc en prison. Ils étaient amenés là-bas sur le lieu du jugement. On commençait par lui dire ce qu'on avait dans le dossier, qu'on l'accusait d'avoir tué quelqu'un ou bien qu'on l'accusait d'avoir blessé quelqu'un. On appelait les témoins. Il y avait les témoins à charge et les témoins à décharge. Alors après avoir entendu tout le monde, on allait délibérer à huis clos, les 8 juges. On allait délibérer. Des fois, c'était facile. Des fois, c'était difficile parce qu'il y en a qui demandaient d'autres preuves. Alors on avait dû parfois ajourner le procès pour avoir d'autres témoins. Et si on ne se mettait pas d'accord, alors on procédait à l'élection, tout simplement.
Est-ce que par ce processus, vous pensez que beaucoup de victimes ont été satisfaites de ce qui s'est passé avec les personnes qu'ils ou elles accusaient?
Oui, je crois oui. Parce que l'objectif des Gacaca, surtout, c'était, à part la justice, c'était aussi la réconciliation. Pour moi, on a su comment ça s'est passé. Il y a beaucoup de personnes qui ont su comment leurs proches ont été tués ou même leurs proches ont été enterrés. La justice, il y en a qui ont été punis. Il y avait différentes punitions, soit 19 ans d'emprisonnement ou bien à perpétuité ou bien les travaux d'intérêt général. Pour moi, je crois que la justice a été rendue, sauf ceux qui courent encore, qu'on n'a pas encore pu retrouver.
Maintenant, les Gacaca, c'est fini. Est-ce qu'il vous arrive de voir cohabiter dans le quartier d'anciens bourreaux et leurs anciennes victimes?
Oui, dans le quartier ici. Moi, j'ai pratiquement commencé tout le Gacaca. J'ai vu les personnes qu'on a accusées. Il y en a que je vois encore qui circulent. Il y en a que je vois qui ont perdu leur famille, leurs proches et qui sont là dans le quartier. Tout le monde cohabite, tout le monde vit ensemble normalement.
Françoise Gahamani, ancienne présidente du tribunal Gacaca à Kigali. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph, Josel Morissin et Lionel de Runamira Gahima. À la présentation, Eric Manirakitz. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellente soirée à tous. Au revoir.
Bonsoir.